camp, Alphonse.
Au programme aujourd'hui,
faut se méfier de tout le monde. Faut se méfier de tout le monde. Alors, les 5 de Cambridge, ça vous rappelle quelque chose pour la guerre froide? C'était des Anglish, ouais, des Anglish qui en fait travaillaient pour les Popov, pour les Russes, pour les Soviétiques. Alors ils avaient des super postes haut placés, même à la radio, il y avait un directeur d'RTL et tout à l'époque. Enfin, c'était hyper chaud. Faut se méfier de tout le monde. Par exemple, moi, je ne capte plus SFR là.
Ouais.
Là, ça fait 2 heures, il y a des espions à SFR, ils ont fait péter le réseau. Je capte. Ah ouais, je capte plus, ça marche.
Vous captez plus, ça marche plus. Merci Laurent.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL 15h. Toutes les infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Vincent de Rosier, bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour
Vincent,
Laurent.
Qu'est-ce qui se passe, SFR, bonjour. Ça fait 2 heures.
Alors, c'est une panne, l'opérateur ne donne pas de précision, ils expliquent qu'ils sont pleinement mobilisés depuis 14 heures et ils ne donnent pas d'heure. Et ça frappe de façon aléatoire, donc pas de chance Laurent, c'est tombé sur vous.
Ah, pas de peau, hey, grouillez-vous, hein, faut que j'aille chercher mes gamins à l'école, là. Comment je peux les appeler?
Le message est passé à SFR, jackpot pour Airbus, le constructeur aéronautique européen annonce une commande de 30 avions A320 plus 10 cargos A350 avec le loueur saoudien Avilis, valeur théorique du deal, 7 milliards de dollars. Airbus a également vendu 25 gros porteurs à Riyad Air. C'est le nouveau transporteur national de l'Arabie Saoudite pour 9 milliards de dollars. François Bayrou a inauguré ce matin le salon du Bourget, le plus ancien et le plus grand rendez-vous aérospatial au monde. L'ex-secrétaire d'État Modem à l'éducation prioritaire Nathalie Elimas, condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et une amende de 5000 euros par le tribunal correctionnel de Paris. Elle était jugée pour harcèlement morale sur plusieurs collaborateurs. À la barre, 3 femmes ont raconté leur passage au cabinet de l'ex-ministre où régnait selon elles un climat paranoïaque. Pour sa défense, Nathalie Elimas a évoqué un complot politique pour la faire tomber. Elle est aujourd'hui conseillère régionale d'Île-de-France. Pas de trêve entre Israël et l'Iran. L'offensive qui vise des sites stratégiques iraniens a débuté il y a 4 jours. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles sol-sol iranien. La Coupe du Monde des clubs, c'est aux États-Unis. Le PSG a arraché hier la victoire contre l'Atlético Madrid 4-0. Le prochain match, ce sera vendredi contre les Brésiliens de Botafogo. Alors tout cela peut durer théoriquement jusqu'au 13 juillet. Le PSG peut-il gagner ce mondial des clubs sans impacter la saison prochaine? Élément de réponse dans notre podcast quotidien, on refait le match.
Tu ne peux que craindre pour certains joueurs que l'enchaînement saison complète, Coupe du Monde des clubs, re-saison complète, plus Coupe du Monde, à un moment se paye. Donc est-ce que le PSG, qui a tellement de marge en Ligue 1, pourra se permettre, après la Coupe du Monde des clubs, je ne dis pas de faire l'impasse sur le début de saison en Ligue 1, mais en tout cas de vraiment faire reposer certains cadres, leur faire une vraie prépa, quitte à ce qu'on les voit très peu les 2 premiers mois de la Ligue 1, le PSG a tellement de marge qu'il n'y a pas de danger au niveau du championnat.
Éric Silvestro avec Philippe Sansfourche et donc notre podcast On refait le match, la quotidienne, il est en ligne sur notre application et sur rtl.fr. La météo pour demain.
Stop aux moustiques avec le spray répulsif anti-piques Pure Essentiel. La protection naturelle efficace 7 heures contre tous les insectes piqueurs.
Ce sera un temps très ensoleillé sur tout le pays, avec un petit risque d'averse sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse. En fin de journée, le Mistral faiblira. Dans la vallée du Rhône, les températures demain matin de 11 à 14 en général, de 15 à 20 près de la Méditerranée. Les courses, c'est à Compiègne, départ 18h, attention le 12 et non partant. Voici les pronos de Dominique Cordier, le 11, le 10, le 5, le 9, le 6... L'As, le 2 et l'outsider de RTL, c'est le 6, Roi de l'air, 15h03 sur RTL. Vous l'avez compris, vous retrouvez tout de suite Laurent Deutsch.
RTL.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus incroyable des histoires d'espionnage. Pendant plus de 30 ans, 5 fonctionnaires britanniques ont trahi leur pays au profit des soviétiques. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est le niveau de responsabilité auquel ils étaient parvenus. Ces hommes travaillaient au ministère des Affaires étrangères, dans des ambassades, à la BBC, au ministère de l'Économie et des Finances, ou même pour les services secrets anglais. Et tous occupaient des postes haut placés. L'histoire les retiendra sous l'appellation des 5 de Cambridge, du nom de l'université où tout a commencé. Mais oubliez tous les livres d'espionnage que vous avez pu lire, tous les films que vous avez pu voir, car le scénario que je vous propose aujourd'hui est encore plus extravagant que tout ce qu'Hollywood peut imaginer. Alors restez avec moi, car dans quelques minutes, la réalité atteindra des sommets que la fiction n'arrivera jamais à égaler. Voici l'histoire des 5 de Cambridge sur RTL. À tout de suite.
RTL. Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Cet été, partez en vacances avec votre prof d'anglais préféré. Grâce au cahier de vacances Let's Go on Holiday de Monsieur Prof, révisez l'anglais en vous amusant. Jeux, devinettes, exercices et bonus audio pour progresser sans stress. Let's Go on Holiday avec Monsieur Prof pour des vacances à l'anglaise et 100% fun. Aux éditions Larousse.
Bouleversée par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
Tous les jours sur RTL, retrouvez la tablée du petit matin à 6h40. Le point de vue tranché d'Isabelle Saporta, les secrets du climat avec Marina Giraudot, les pourquoi de l'info de Florian Gazan ou encore l'économie décryptée par Martial Liu.
Alors, j'interdis pas à Sanofi d'investir aux États-Unis, mais est-ce qu'on était vraiment obligé d'être le premier groupe de l'Union européenne à annoncer un investissement en R&D qui est notre point fort à l'origine? Pas forcément.
La tablée du petit matin, c'est votre concentré d'actualité pour bien démarrer la journée. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire des 5 de Cambridge.
Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sans doute en 1946 ou en 1947, on n'est pas certain de la date. Ce jour-là, le téléphone sonne dans un bureau anonyme du KGB, le service de renseignement soviétique à Moscou. Un fonctionnaire décroche, il ne dit rien, écoute quelques instants, puis raccroche. Il décroche ensuite un autre téléphone, compose un numéro, attend, et au bout d'un moment, il ne dit qu'un seul mot à son interlocuteur, un nom.
Konstantin Volkov.
Konstantin Volkov est un diplomate russe. Il est vice-consul à Istanbul. Volkov ne croit plus à la révolution et au paradis des travailleurs. Il a beaucoup voyagé et il sait combien la vie est plus agréable dans les démocraties occidentales. Alors, il a décidé de trahir, de donner des informations aux Anglais en espérant qu'un jour, il sera exfiltré. Mais pour y arriver, il lui faut une information capitale à livrer. Et aujourd'hui, ça tombe bien, il l'a, cette info. Il connaît les noms de 2 hommes... Deux membres des services britanniques qui, en fait, sont des agents soviétiques. 2 hommes très bien placés, en plus. Alors, en échange de ces 2 noms, il veut de l'argent, l'asile politique, la nationalité britannique et même une nouvelle identité. Hélas, Volkov a été trahi. Oui, quelqu'un a appelé Moscou pour le dénoncer. Et ce matin, alors qu'il sort de chez lui, comme d'habitude, vers 8h... pour rejoindre le consulat à Istanbul, un chauffeur vient le chercher en voiture, mais ce n'est pas le chauffeur habituel. Bon, Volkov ne se méfie pas, il monte quand même dans la voiture. On ne le reverra plus jamais. Il sera renvoyé à Moscou, interrogé, torturé et liquidé. Les 5 de Cambridge, les espions soviétiques placés au cœur du système britannique que Volkov allait dénoncer sont sauvés. Au moins, pour cette fois. Revenons à l'origine de notre histoire, qui débute dans les années 1920. Imaginez des jeunes gens de bonne famille, issus de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Ils sont bien éduqués, ils sont bien coiffés, ils sont cultivés, ils sont intelligents, ils composent la future élite du pays et on les forme dans les meilleures écoles. Mais ces jeunes gens, le cerveau truffé d'idées nouvelles, vont entrer en rébellion avec l'ordre établi. En même temps, c'est un peu normal. Chaque génération vit sa période contestataire. C'est une étape dans la vie. Ça passe avec les années. Et une fois le diplôme en poche, on rentre dans le rang pour réussir sa carrière. Sauf que, dans le cas qui nous intéresse, le monde est en plein bouleversement et nos jeunes étudiants vont avoir l'occasion de mettre en pratique leur rébellion adolescente. Ils ne vont plus simplement rêver de changer le monde, ils vont pouvoir le métamorphoser réellement. Oui, car à cette époque, l'Europe vient de vivre une transformation majeure avec la révolution de 1917. C'est la fin de l'Empire russe et l'instauration d'une dictature communiste à Moscou, ou plutôt la création d'une dictature du prolétariat, annoncée comme l'avènement d'une nouvelle société plus juste et plus égalitaire. Chacun y serait respecté, les classes sociales n'existeraient plus et les injustices seraient balayées. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout cela nous semble bien naïf, bien utopique. On sait qu'au bout du compte, le rêve se transformera en cauchemar et la Russie plongera pendant presque un siècle dans un régime mortifère. Sauf que là, en 1920, le nouveau régime instauré en Russie n'a que 3 ans. Et un peu partout en Europe, les idées communistes se diffusent. Et on y croit. La récente révolution industrielle et la croissance économique qui a suivi ont réussi à créer une nouvelle classe sociale. Les prolétaires, les ouvriers, les travailleurs du bas de l'échelle. Et sur ce nouveau terreau, les graines des idées marxistes ont pu s'épanouir. Et il en est de même chez nos jeunes étudiants issus de l'élite et promis un bel avenir. Ils se sentent étouffés dans le carcan rigide de la société britannique. Ils veulent plus de liberté, casser les codes, comme on dirait aujourd'hui, changer les rapports sociaux, mais aussi les mœurs qu'ils veulent plus libres. Et ce souffle qui vient de l'Est et qu'ils voient comme un vent de liberté les séduit. Un événement va les conforter dans leur vision du monde, c'est la crise de 1929 aux États-Unis. La bourse de Wall Street s'effondre, et avec elle, c'est toute la société américaine qui est menacée. On voit des colonnes de pauvres gens qui ont tout perdu, emploi, économie, maison. Ils sont poussés sur les routes comme des cohortes de miséreux. L'Europe n'est pas en reste, elle aussi touchée par l'effondrement de l'économie capitaliste. Alors, il est tentant de voir dans cet événement non pas une crise, mais un changement durable, inéluctable, profond. La fin du capitalisme. Les Russes auraient donc eu raison avant tout le monde. La société marchande est morte à Wall Street. Suivons leur exemple et créons ici, en Angleterre, une nouvelle société sur ses cendres. Une société communiste. Intéressons-nous maintenant à l'une des plus prestigieuses universités britanniques, Cambridge. Ah oui, attention les enfants, hein. Cambridge, c'est pas de la quiche, c'est le temple du savoir de l'Angleterre traditionnelle. C'est là que l'on forme les cadres qui dirigeront le pays demain. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la jeunesse a souvent d'autres rêves que la simple acquisition d'un savoir qui lui paraît poussiéreux. Alors, ici aussi, les idées communistes vont s'infiltrer dans les couloirs de l'université ainsi que dans les esprits de cette jeunesse dorée. En 1920, le Parti communiste britannique est créé. En 1924, le Parti travailliste, qui n'est pas communiste mais quand même de gauche, arrive au pouvoir et son leader, Ramsay MacDonald, est élu Premier ministre. son gouvernement durera à peine 9 mois. En effet, accusé d'avoir des rapports trop proches avec l'Union soviétique, il est rapidement renversé et les conservateurs reviennent au pouvoir. Mais c'est quand même un signe que le monde est en train de changer. Oui, pour la première fois, un parti du peuple est parvenu au pouvoir. Cela va donner des ailes à nos jeunes contestataires. D'autant que les conservateurs mettent en place une politique d'austérité économique qui entraîne un mouvement de grève générale en 1926. Vous l'avez compris, les amis ? L'ambiance est électrique. À Cambridge, un professeur d'économie nommé Maurice Dobb ouvre la première cellule communiste au sein de l'université. 3 ans plus tard, suite à la crise de 1929, le communisme a le vent en poupe et de nombreux étudiants adhèrent à la cellule du professeur Dobb. Cette même année 1929, en octobre, un dénommé Kim Philby s'inscrit en histoire à Cambridge. C'est un fils de diplomate qui a longtemps œuvré en Inde. Philby vient d'un milieu conservateur. Son diplomate de papa deviendra même un sympathisant du nazisme. Cela explique peut-être la suite. Oui, avec un peu de psychologie de comptoir, on pourrait voir dans l'adhésion de Kim au communisme une façon comme une autre de tuer le père. Toujours est-il que Kim Philby est le premier de nos 5 de Cambridge. Et pendant les 20 ans qui viennent, il va trahir son pays. Car les soviétiques ont vite compris que cette jeunesse élitiste et rebelle, attirée par les idées nouvelles, cette jeunesse qui peuple Cambridge, est un formidable réservoir à espions. Ils lancent donc une opération de grand recrutement en envoyant leurs hommes infiltrer les universités britanniques pour trouver les étudiants les plus prometteurs, ceux qu'on pourrait « retourner », comme on dit dans le jargon des espions. Nous sommes maintenant au début des années 30. Un agent soviétique, Arnold Deutsch, oui, Deutsch, mais franchement, il n'était pas de ma famille ce mec-là, hein, je vous le jure les gars. Arnold Deutsch, donc, assiste au cours du professeur Dobb. Vous savez, le fameux professeur qui a créé la première cellule communiste à Cambridge. Deutsch, oui, et en plus c'est son vrai nom, se dit que les étudiants qui écoutent ses cours sont forcément séduits par les idées qu'il défend. Et il a raison, Deutsch. Et c'est là qu'il repère Philby. Motivé par la lutte contre le nazisme qui monte en Allemagne, et peut-être aussi par le besoin d'effacer l'image d'un papa sympathisant nazi, Philby voit dans le communisme un levier pour stopper la progression d'Hitler et de son parti national-socialiste. C'est là la première motivation de Philby, le danger nazi. Et c'est là-dessus que Deutsch va appuyer pour le pousser à collaborer avec Moscou. Il va aussi lui demander de rencontrer d'autres étudiants qui partagent ses idées. Philby attire en premier Donald MacLean, fervent communiste avant même son entrée à Cambridge. Ensuite, il recrute Guy Burgess et Anthony Blunt. Ces deux-là aussi sont attirés par les bouleversements sociaux que promet l'Union soviétique, mais pas seulement, car ils sont homosexuels et imaginent qu'une nouvelle société égalitaire sera plus ouverte à une évolution des mœurs. Enfin, la dernière recrue se nomme John Cairncross, un Écossais venu d'un milieu plus modeste que les autres. Voilà, c'est fait, ils sont 5, merci Deutsch. Nous sommes en 1930 ou 31 et les 5 de Cambridge sont réunis. À présent, un petit mot sur leur raison de se lancer dans cette aventure. Soyons clairs, ils ne vont pas trahir leur pays pour l'argent ou pour la gloire. D'abord parce que l'activité d'espion est anonyme et ne rapporte pas tant que ça. Et n'oubliez pas, de toute façon, que la plupart d'entre eux viennent de familles aisées. L'argent, ils en avaient. Ce qui les motive avant tout, c'est la lutte contre le fascisme et le nazisme qui sont en train de s'étendre en Europe. Et surtout, ils veulent sincèrement appliquer les théories marxistes et communistes qui, à leurs yeux, sont les véritables outils pour fabriquer un monde meilleur. Peut-être cherchent-ils aussi l'aventure, l'excitation d'une vie hors normes. En tout cas, ils veulent réellement changer le monde et le leur. Mais pour ça, il faut d'abord les rendre insoupçonnables. Alors, ils doivent couper les ponts avec la cellule communiste de l'université. Ils doivent oublier toutes leurs relations qui flirtent avec les idées de gauche. Ils vont devoir infiltrer un pouvoir conservateur, donc suivre ses codes, ses modes de pensée. Eux-mêmes doivent avoir un discours conservateur. Déguisés en ennemis, ils pourront ainsi le côtoyer, l'observer et l'espionner. Côté études, tous obtiendront haut la main leur diplôme à Cambridge et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils vont faire leur classe avec brio. Philby se fait passer pour un journaliste de droite. En 1936, il couvre la guerre d'Espagne côté franquiste pour le journal Le Times. Il y gagne la confiance des fascistes espagnols. Il rencontre même Franco. Il obtient des confidences et des informations qu'il envoie immédiatement aux soviétiques qui, eux, soutiennent les républicains espagnols dans leur guerre contre le caudillo. MacLean, lui, entame une carrière diplomatique et devient numéro 3 de l'ambassade britannique à Paris. Il abreuve Moscou de documents secrets qu'il photographie la nuit. Burgess devient présentateur sur la radio nationale, la BBC, ce qui lui permet de rencontrer et nouer des liens avec des personnalités politiques de premier plan, dont Churchill. Cairncross entre au ministère des Affaires étrangères, d'où il peut informer les soviétiques des stratégies britanniques en matière de diplomatie. Enfin, Anthony Blunt infiltre le milieu universitaire en intégrant le prestigieux institut de recherche, le Warburg Institute. Puis, c'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Philby, toujours journaliste, est envoyé par le Times pour suivre l'armée anglaise en France. Il travaille donc aux côtés des officiers britanniques à qui il soutire des informations qu'il envoie aussi sec au KGB. Quand la France capitule en 1940, il rentre à Londres. En cette période de guerre, l'armée et les services secrets recrutent et Philby intègre carrément le MI6, le service des renseignements extérieurs britannique. Là, il va avoir accès à toutes les opérations, en cours ou à venir, des services britanniques partout dans le monde. Et comme vous l'imaginez, il va pouvoir en informer Moscou. Burgess reste à la BBC et c'est Cairncross qui décroche la timbale. Oui, lui devient carrément premier secrétaire du ministre de la guerre au sein du gouvernement de Churchill. Une place en or pour récolter des informations de première main qu'il transmet directement à l'Union soviétique. Belle réussite aussi pour Anthony Blunt, qui intègre lui le MI5, les services de renseignement nationaux. Là encore, une mine d'informations qui file directement à Moscou. Enfin, MacLean devient premier secrétaire de l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington. Il travaille directement avec les services américains et lui aussi donne donc d'excellentes informations à ses maîtres de Moscou. Notamment en ce qui concerne le projet Manhattan, projet ultra secret monté aux États-Unis pendant la guerre pour fabriquer la première bombe atomique. Et si les soviétiques ont pu suivre l'avancée américaine des travaux, c'est grâce à MacLean. Après la Deuxième Guerre mondiale, arrive la guerre froide. Le monde est divisé en deux. Démocratie libérale d'un côté, dictature communiste de l'autre. Avec l'équilibre de la terreur, les deux camps possèdent en effet la bombe atomique, la guerre se joue alors en coulisses, dans l'ombre. Et c'est l'âge d'or de l'espionnage entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Ainsi donc, nos cinq de Cambridge vont encore briller. Cairncross quitte le ministère de la guerre pour entrer au Trésor, le ministère britannique de l'économie et des finances. Là, les soviétiques sont ravis. Il n'avait encore personne dans cette administration. Beau parcours aussi pour Burgess, qui lui est nommé assistant personnel du ministre des Affaires étrangères. Il photographie les documents confidentiels de son ministre pour les envoyer aux soviétiques. Tout aussi incroyable, MacLean est nommé représentant britannique au sein du comité politique anglo-américain pour le développement des armements nucléaires. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Un espion soviétique siège au cœur de l'organisme qui décide des stratégies communes britanniques et américaines en matière d'armement nucléaire. Philby reste au MI6, mais Anthony Blunt, lui, arrête. Il lâche l'espionnage après la Seconde Guerre mondiale pour faire carrière dans l'histoire de l'art. Toute cette affaire va donc durer une bonne vingtaine d'années. Mais à force de soupçons, d'enquêtes et de témoignages, les cinq de Cambridge finiront par être démasqués. Cairncross avoue tout, il sera laissé en liberté et terminera ses jours dans le sud de la France. Blunt, lui aussi, avoue, et lui aussi est laissé libre. Il poursuivra sa vie de professeur d'histoire de l'art. Quant aux trois autres, Burgess, MacLean et Philby, ils vont fuir en Union soviétique. Mais Burgess ne supporte pas cette vie à l'Est. Le luxe et le confort lui manquent. Il déprime et on le retrouvera mort un matin de 1961 dans son lit d'hôpital. Bah ouais, c'est plus facile d'être communiste quand tu roules en Rolls-Royce. MacLean travaillera au ministère soviétique des Affaires étrangères et il mourra en 1983. Philby, lui, deviendra un véritable héros de l'Union soviétique. Il sera célébré dans tout le pays et aura même un timbre à son effigie pour service rendu. Il mourra en 1988. Le gouvernement britannique, quant à lui, a étouffé toute l'histoire. Elle ne sortira dans la presse qu'en 1979 et provoquera un scandale mondial. Du coup, une autre version a émergé, nous disant qu'en réalité, les cinq de Cambridge jouaient en fait un triple jeu. Ils auraient fait croire aux Soviétiques qu'ils travaillaient pour eux, pour mieux les espionner, au profit de la Grande-Bretagne. Une nouvelle version qui, comme vous vous en doutez, nous a été proposée par les Anglais. Quoi qu'il en soit, nos cinq de Cambridge ont bel et bien réussi, qu'on le veuille ou non, à influencer la grande histoire en communiquant des informations primordiales à l'Union soviétique. C'était peut-être pour des James Bond, mais ils ont été tout aussi efficaces. Et ben voilà les amis, entrer dans l'histoire c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain. Nous partirons au Moyen-Orient avec une figure emblématique du monde arabe, Yasser Arafat. Mais pour l'instant, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes. Bon après-midi sur RTL.
RTL. Que vous soyez plutôt économie avec François Langlais.
Le pétrole contenu dans le baril ne représente qu'une fraction du prix du carburant. En fait, un litre d'essence, c'est un litre d'impôt.
Ou santé avec Jimmy Mohamed.
Non seulement la rougeole est très contagieuse, mais la période durant laquelle vous pouvez la transmettre est également très longue.
Votre grande tranche d'infos,
c'est RTL Matin 7h-10h.
Tout savoir sur
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF ou carburant d'aviation durable pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
Cet été, c'est l'Italie, toute l'Italie, qui viendra à vous. Grâce à une merveilleuse, une prodigieuse porteuse de lettres. La porteuse de lettres, c'est le roman phénomène de Francesca Giannone. Au cœur des Pouilles, aux mille senteurs, aux mille saveurs, l'épopée d'une femme libre qui, par son métier de postière, va se retrouver au centre de toutes les passions d'un petit village. La porteuse de lettres, le roman numéro 1 en Italie, va donner à votre été toutes les couleurs, toute la beauté, toute la passion du mezzogiorno. Un roman Albin Michel.
Noroto.
C'est quoi cette musique? Tu t'es mis à la méditation?
Même pas, je suis juste détendu.
Toi détendu? Oh ben c'est nouveau ça.
J'ai entendu que Noroto remboursait jusqu'à 120€ pour l'achat de pneus Michelin. Y'a de quoi être zen.
120€? C'est pas vrai.
Et si c'est vrai, jusqu'au 27 juillet, pour l'achat de pneus Michelin, Noroto vous rembourse jusqu'à 120€. Avec des prix comme ça. Pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024. Conditions en centre et sur nordauto.fr.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête philosophe, indispensable un jour du bac philo, Vincent Cespedes. Une grosse tête qui a le ferry en plus du bac pour revenir de Corse, Christine Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête docteur en physique et en mathématiques qui va faire la connaissance de Christine Bravo et ça pourrait chambouler toutes ses théories. Fabrizio Buccella, le professeur. Une grosse tête qui a son fauteuil dans le grand studio et son roulement de tambour en régie, Caroline Diamant. Une grosse tête qui est le seul commissaire de France à être aussi rappeur, Stomy Bugsy. Oh oui. Et une grosse tête qui, entre deux secrets sur TF1, vient faire du karaoké sur RTL, Christophe Beaugrand.
Bonjour.
Oui, Christine Bravo est restée, elle est là encore quelques jours.
Hélas.
Ah, pourquoi vous dites hélas?
Mais non, je plaisante,
vous êtes
je l'adore.
Content de la retrouver, mais j'imagine. Oui. Alors, sauf que Christine n'aime pas trop les nouvelles têtes,
ah bah,
aux grosses
déçue,
têtes.
Bah.
Et là, aujourd'hui, évidemment, il y a deux nouveaux, pour elle, en tout cas, pas pour les auditeurs qui écoutent l'émission régulièrement.
Mais j'en suis malade.
Pourquoi vous en êtes malade?
Parce que je veux voir ce que ça vaut.
Ah, on a la pression, là. Hein.
Ah ben, bah, le philosophe est là pour, évidemment, nous parler du bac philo. Quant au professeur, oui, alors... Vous connaissez Christine Bravo, professeur?
Ah oui, de réputation et de l'écouter dans le poste. Ah, vous avez un petit axe sur vous.
Et professeur, vu d'ici, vous pensez que c'est un être humain?
Il fait de la physique, chimie.
Ben oui. C'est la question philo, c'est en face, c'est de l'autre côté de la table.
Ah, c'est philosophique, hein, Christine, c'est une question philosophique.
Mais vous ne connaissiez pas le professeur Buccella, Christine?
Pas du tout. Quand je suis rentré dans le studio, c'est vrai que j'ai cru que soit c'était un patron. Soit j'ai cru que
c'est vrai qu'il a une tête de patron.
Il a une tête de patron. Soit je me suis dit il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a aussi une tête de croque-mort. Un peu. Enfin, il a un style qui est très différent des vôtres.
Oui.
Oui, il est élégant, quoi.
Il est élégant.
Mais oui.
Non, mais il a la cravate.
Non, non.
La cravate.
Il n'est pas seulement élégant. C'est vrai qu'il a une tête plus d'expert comptable que de grosse tête.
Voilà.
Avec ses lunettes, son crâne chauve.
De notaire, de province, enfin.
Voilà, non, mais... Bienvenue.
Voilà. Bienvenue.
Mais... Bah, merci.
Bienvenue. Hein,
mais merci.
Bruxelles est un peu la province de Paris, hein.
Ouais, ouais. Et puis lui, ben on va voir quoi.
C'est vrai qu'il y a plein de fêtes.
Lui, c'est le philosophe Vincent Cespedes.
Oui,
vous connaissiez quand même.
De nom, oui.
Ah, de nom.
Oui, on a failli faire une émission un jour comme
quoi
ça. Oui, sûrement. J'avais écrit sur le loft sur M6.
Mais quel rapport?
Vous m'avez invité, mais j'avais décliné.
J'ai invité où moi?
Vous aviez une émission à un moment.
Ah oui, oui, mais pas laquelle.
Non, mais voilà. Christine est complètement écolo. Elle est zéro émission aujourd'hui.
Mais bon, bah c'est. Non, mais moi j'aime bien. Et puis je retrouve un vieux camarade, enfin camarade, on est, je l'ai connu, il était tout petit, Stomy.
Bah oui,
c'est émouvant.
On a fait plein d'émissions ensemble.
Ouais, c'est très émouvant.
Grâce à toi, j'ai failli pêcher au Victoria Beckham.
C'est pas vrai?
Ah, ouais.
Vous en avez eu d'autres, hein? Pourquoi vous avez failli avoir Victoria Beckham?
Non, on a fait une émission ensemble. C'est pas Victoria Beckham, elle s'est dégonflée, elle voulait pas chanter. Christine m'a chauffé, elle m'a dit vas-y chauffe là et tout ça. Après je l'ai chauffé, et finalement elle a accepté.
Qu'est-ce
de...
que vous appelez je l'ai chauffé?
Ah,
elle a
je parle en anglais, je lui dis vas-y Victoria, pour ta carrière en France c'est bien que tu le fasses, vas-y. Elle a dit bah finalement elle a fait, elle s'est levée, elle a commencé à chanter, j'ai dansé avec elle.
Bon alors non. Je dois juste dire un truc, c'est que je n'ai jamais rencontré Victoria Beckham.
C'est pas à toi alors.
Bienvenue dans la quatrième dimension.
Dans quelle émission alors?
Attendez,
mais non mais Non mais à mon avis tu confonds avec Coé, mais ils se ressemblent un petit peu.
Non, c'était son émission.
C'était son émission. Ils étaient ensemble.
Parce qu'à l'époque elle n'était pas Victoria Beckham encore.
Elle était Spice Girls.
Bah oui.
Dans quelle émission?
Bah dans ton émission.
Union.
Je sais la dernière fois que j'ai fait.
Ça devait être Union Libre.
Non, la dernière fois j'ai fait l'émission comment ça s'appelle Les Enfants de la télé.
Ouais.
Voilà, ils ont repassé l'extrait. C'est pour ça que je m'en rappelle. Je m'en rappelais même pas moi que j'avais rencontré aussi Victoria Beckham.
Et j'y suis.
Oui. On est ensemble dans l'émission.
Elle devait être en forme.
Ouais. Mais même moi j'avais oublié aussi. J'avais oublié cette anecdote.
Mais je crois que je vous crois pas parce que quand on croise Christine Bravo, croyez-moi, on l'oublie pas.
Oui, Victoria Beckham, on peut l'oublier, mais Christine Bravo, non.
Mais je me rappelle plus des soirées chez Castel avec Christine Bravo que dans son émission.
Il y a du dossier.
C'est vrai, tu te souviens?
Ah oui, c'est merveilleux.
On se rappelle tous des soirées chez Castel.
On a passé des belles soirées ensemble. On s'en rappelle pas, mais. Non, il n'y a rien eu. On dit au mari, il n'y a rien eu.
Non, non. On sait jamais.
Le mari, de Christine, le mari voilà. Je vais vous dire, face à vous, il ne bronche pas. Hein.
Bon, je ne t'ai pas vomi sur les chaussures.
Non, non, non.
Oh, quel horreur.
Sur les chaussures, non.
Oh, non.
Pour Jean Benoît, une première citation, j'enchaîne. Hein. Une première citation, Monsieur Benoît habitait Guières dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « On comprend qu'on est célibataire quand il y a un truc froid qu'on sent dans le lit avec le pied droit et que c'est son pied gauche. »
Français.
C'est français.
C'est Jean-Yann ?
C'est pas Jean-Yann.
Non, des proches.
Est-ce qu'il est mort ?
C'est quelqu'un qui vit encore.
Philosophe.
Ah, et qui est français ?
C'est quelqu'un qui est de notre pays, oui, oui.
Il vit beaucoup.
Ah, c'est une femme.
C'est une femme.
Ah. Une humoriste ?
Une humoriste.
Anne Roumanoff.
Et c'est Anne Roumanoff. Oh. Bonne réponse.
C'est bien, hein.
De Monsieur Beaugrand, pour Sarah Cohen, qui habite Saint-Romain-la-Motte dans la Loire, qui a dit « En général, on ne demande des conseils que pour ne pas les suivre, ou si on les a suivis, pour reprocher à quelqu'un de les avoir donnés.
» Alors, c'est pas français, ça c'est traduit.
Oh, ça c'est très français, c'est du 19e siècle.
Ah, ah oui, ah ouais. On parlait déjà comme ça. C'est un romancier.
C'est un romancier, grand romancier. Même.
Novelliste.
Très grand
Victor
romancier.
Victor Hugo, Balzac.
Alors, moi je pense à Paul
Flaubert.
Plus à la mode encore que tout cela.
Non. Ah oui, à la mode. À
de
la
quand
mode. De quand Monsieur Tripp.
Mais non, ça veut dire qu'il y a eu un énorme succès récemment au cinéma.
Oui,
c'est l'Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas, bien sûr. Ah, j'aime bien la suivante pour Mme Roselyne Hénaud, qui habite Bresset dans la Manche, qui a dit « Je n'ai aucun préjugé sur qui que ce soit. Je déteste tout le monde de manière uniforme. »
Bénichou.
Ah, ça, c'est Christine Bravo.
Ça peut être Pierre Bénichou, Christine Bravo.
Arletty.
Non, non, non. Là, pour le coup, ça n'est pas français.
C'est pas français, c'est Woody Groucho Allen. Marx.
Pas Groucho Marx.
Woody Allen.
Alors, c'est Bob
Hope.
Bob Hope, non.
Steven Wright.
Non, non, non. Quelqu'un.
Jerry Seinfeld.
Non.
Est-ce qu'il est vivant?
Ah non, il est mort.
Il est mort.
Longtemps.
Robin Williams.
Robin Williams. Non.
Calme-toi. Elle est très énervée.
Mais
calme-toi.
C'est quelqu'un que.
Un humoriste américain.
Ah oui, quelqu'un que vous allez voir régulièrement.
Un psy.
Non. En tout cas, une partie de lui.
C'est Rocco Siffredi.
Non.
John Ford.
Non, non, écoutez, je vous ai tout dit quand je vous dis que vous y alliez
66,
régulièrement.
Au but.
Non.
Au WC, Field.
Oui. Bonne réponse de Christine Bravo. Eh oui, WC Fields, c'est la plus maligne.
Ah, ça, on est à vélo dans cette émission. On voit comment on devine WC Fields, franchement.
Ah bah, j'ai dîné avec lui hier, il m'a fait toutes les réponses.
C'est vrai qu'on a dîné ensemble hier.
J'avais dîné avec WC.
Un grand moment. Hein.
Alors, ça s'est passé comment,
ce dîner? C'était formidable parce qu'elle me demandait des nouvelles de tout le monde. Le problème, si vous voulez, quand vous dînez avec Christine Bravo, qui revient régulièrement de sa Corse, c'est qu'il faut faire un reset global.
Ah oui, il y avait 6 mois d'absence.
Alors, elle vous demande des nouvelles de tout le monde. Alors, je vous ai dit, écoutez, je lui ai résumé les choses, parce qu'elle me demandait des nouvelles de tous les gens qu'on connaît depuis 25 ans. Je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Soit ils sont morts, soit ils sont en prison, soit ils sont à l'hôpital. Vous n'écoutez pas les infos, rien, vous êtes isolé en Corse.
Bah, j'écoute la nature.
Ah, t'as raison, t'as raison.
J'écoute.
Bah, vous n'êtes pas rancunière. Une citation pour Romain Christineau qui habite Évreux, qui a dit « La boxe, c'est comme un ballet, sauf qu'il n'y a pas de musique, pas de chorégraphie et que les danseurs se tapent dessus. »
Rocky Woody Balboa. Allen. Ça, c'est pas français, ça.
C'est drôle.
Ça, c'est un français.
Ah, c'est un français.
Il est drôle.
Ah, il est drôle. Ah, oui.
Il est mort.
Il a été. Non, il est toujours vivant.
Il a été drôle. Il est plus très drôle.
Si.
Dieudonné.
Il est toujours sur scène. Dieudonné, non. Peut-être que j'aurais pu vous aider en essayant de l'imiter, mais c'est pas facile.
Essayez, ça nous amusera au pire.
La boxe, c'est comme un ballet, sauf qu'il n'y a pas de musique, pas de chorégraphie et que les danseurs se tapent dessus. Bonne réponse.
Grosse tête sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Tout savoir sur...
Le secteur aérien représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Total Energy travaille depuis plus de 10 ans à leur réduction. Isabelle Patrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice France de Total Energy. Quelles initiatives proposez-vous ?
Chez Total Energy, on investit dans la production et la distribution de SAF.
C'est-à-dire ?
SAF, c'est un acronyme anglais qui signifie carburant d'aviation durable. En fait, on le produit déjà dans nos raffineries en Europe, notamment à partir d'huile de cuisson usagée. Mmh. Et ensuite, on l'incorpore dans les carburants aériens. Ça permet de réduire progressivement les émissions de CO2.
Alors, vos défis aujourd'hui ?
C'est d'être présent sur toute la chaîne au service des acteurs de l'aviation. Les filières d'approvisionnement de ces fameux déchets, la transformation de nos usines pour cette production, la formation de nos collaborateurs à ces nouveaux métiers.
Avec comme ambition pour Total Energy ?
Notre ambition, c'est de devenir un producteur majeur de SAF pour accompagner nos clients du secteur aérien, avec 1,5 million de tonnes par an en 2030.
Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur totalenergy.com, rubrique Transition énergétique.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RTL.
RTL Matin, c'est 3 heures d'infos tous les jours avec vos chroniques santé, éco, politique et un invité immanquable toutes les heures.
Bienvenue sur RTL, François Hollande, Monsieur le Président.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue Marie-Josée Pérec.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Jordan Bardella.
Bonjour Monsieur Soto, merci pour votre invitation.
Les invités à ne pas manquer sont dans RTL Matin, 7h-10h. Carrefour.
Quand vous me dites les cerises, alors en clafoutis, en tartelettes, en sorbet ou simplement nature, j'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Allopneu.com.
Vos pneus doivent être remplacés, mais le faire en ligne ? Ouais, vous savez pas trop. Sur allopneus.com, rien de plus facile, même la toute première fois. Je rentre mon immatriculation, je valide mes pneus, je prends rendez-vous pour le montage dans l'un des 6000 garages partenaires ou directement à mon domicile, et hop, c'est fait.
Et pour votre première fois, découvrez la marque Vredestein, les pneus haute performance au meilleur rapport qualité-prix.
Allopneus.com.
Si simple de faire changer ses pneus.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour les grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est bien sûr sur RTL, ravi de vous retrouver. 15h30, 18h, bel après-midi à vous.
Une question pour Madame Maury, Delphine Maury, qui habite Vieux-en-Salaz, c'est en Meurthe-et-Moselle. J'aimerais vous parler de Gaston Pourquier. Pour quelle raison a-t-il beaucoup fait parler de lui il y a 45 ans ?
Parce qu'il a eu le bac, dans les Soudoués passe le bac.
Comment vous savez ?
Parce que je me rappelle très bien, puisqu'à la toute fin du film, il pense qu'il n'a pas eu le bac, parce qu'on lui dit « la fiche est collée ». Il pense qu'il n'a pas eu le bac, c'est qu'en fait la feuille était collée et là on lui dit qu'il a le bac et il a une crise cardiaque et il meurt.
Il y a une petite erreur dans votre réponse.
C'est pas les Soudoués passent le bac, c'est...
Si, c'est les Soudoués. Ça s'appelle les Soudoués tout court.
Ah oui, les Soudoués.
Mais c'est vrai que vous m'avez peut-être donné le titre en version québécoise parce que chez nous ça s'appelait les Soudoués et au Québec c'était effectivement les Soudoués passent le bac.
Ah bah c'est mon côté québécois.
Et ben voilà.
Gaston Pourquier.
C'est une excellente réponse.
Alors là, j'adore ce film.
Ah bluffé, hein.
L'acteur avait un petit défaut de prononciation.
C'était Raymond Bussière.
Voilà, il y a des Raymond Bussière.
Très grand acteur, évidemment, d'avant-guerre et qui jouait un vieux candidat au bac. Mais j'ai une petite question subsidiaire. On va voir si vous le connaissez vraiment bien, ce film, puisqu'on est jour du bac aujourd'hui. Dans Les Sous-doués, qui effectivement repasse le bac ou passe le bac pour la première fois pour les plus jeunes. Daniel Auteuil, d'ailleurs, est évidemment le candidat, l'élève le plus célèbre des Sous-doués à l'époque. Il avait d'ailleurs passé l'âge d'être bachelier.
Hein, oui, il était un peu vieux pour le rôle.
Bien plus vieux que le rôle, mais bon...
il avait beaucoup redoublé.
Ça marchait quand même. Il y avait aussi Hubert Deschamps dans le rôle des professeurs, Tony Marshall. Et puis, alors, c'est ça qui est intéressant, quand il passe le bac, il y a un pion qui surveille les épreuves. Quel est l'acteur qui jouait le pion qui surveille les épreuves?
Le balèze, là, le grand, là.
Qui est plus... Il est devenu célèbre, j'imagine.
Ah, il était déjà célèbre, mais là, il était encore...
Il était jeune?
Ah, il était... Bah, en 80, il avait 45 ans de moins, mais...
Il est mort?
Il avait déjà au moins la quarantaine.
Non, il est vivant?
Il est toujours vivant.
C'est un beau mec?
Bon, il n'a jamais été engagé pour sa beauté.
Il a été engagé pour quoi?
Ah bah, parce que c'était un très bon acteur.
Est-ce qu'il était
plutôt... Émouvant, dans... et les gens l'adorent.
Bah, il jouait plutôt dans des comédies ou pas forcément, là?
Non, pas beaucoup les comédies, mais il a fait quelques comédies, parce qu'il est aussi dans... comment s'appelle ce film qui se passe dans le sentier, La Vérité si je mens.
La Vérité si je mens.
Attendez, s'il est dans La Vérité si je mens, je l'ai forcément. Ok.
Et il c'est fait, pas okay. Richard Onconina.
Il fait quel rôle?
Ah, Richard Boranger.
Richard Boranger, bonne réponse.
Il joue le père, bravo.
Ah mais oui,
bravo. C'est un acteur. Il joue le père.
Mais ouais.
Il joue le père de Shoshana Boutboul.
Dans La Vérité si je mens.
Je me rappelle du pion maintenant.
Et il joue le pion aussi dans Les Sous-doués. Richard Boranger, c'est quand même un acteur populaire.
Oui. Je croyais qu'il était mort, moi.
Ah non, non, bah écoute, ça va lui faire plaisir.
Ah bah je...
Allez dîner avec Bravo et faites des conversations ensemble. Puisque vous avez pris la parole, Vincent Cespedes, et qu'on parle des Sous-doués, est-ce que vous avez vu les sujets du bac philo aujourd'hui? Alors avant de me donner votre avis, j'aimerais interroger chaque grosse tête. Alors, on va prendre le premier sujet, là, dans le bac philo série générale. Allez, Caroline Diamant, voulez-vous répondre à cette question? Notre avenir dépend-il de la technique?
Ben, la technique a été merveilleuse, et puis là, elle s'est accélérée ces derniers temps, elle va continuer à s'accélérer, et puis nous sommes très près du mur, et bientôt nous serons dedans.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une magnifique partie qui répond non. Voilà, il faut dire oui et non à chaque fois.
Oui, voilà.
Donc ça, c'est la partie technique dangereuse, technique qui effectivement nous a aidés et qui nous envoie dans le mur par plein de moyens, hein, la pollution, la dépendance et l'intelligence artificielle éventuellement.
Alors la partie positive maintenant.
Partie positive, bah la médecine, toutes les avancées technologiques qui font que bah on est aux grosses têtes aujourd'hui.
C'est un beau sujet, ça doit être dans les séries scientifiques, ça, à mon avis.
Non, série générale. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai le deuxième sujet là qui est pour Christine Bravo, puis vous me donnerez aussi.
C'est sur le mensonge.
La vérité est-elle toujours convaincante?
Alors je vais vous répondre. En Corse, quand on nous interroge, on ne répond pas.
Alors, qu'est-ce qu'il fallait répondre à la vérité est-elle toujours convaincante?
C'est un piège, je le dis, c'est un piège, parce que ça ne parle pas de la vérité, ça parle de la puissance qu'a la vérité à nous convaincre, donc de la rhétorique, de la persuasion. Et du coup, c'est évidemment, parfois, on dit la vérité, l'autre ne nous croit pas. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de plus que la vérité pour convaincre?
Ben, quelle vérité? Parce que la vérité judiciaire n'est pas la vérité.
Exactement.
Monsieur Boxy, sujet suivant. Sommes-nous libres en toute circonstance?
Oui et non. Dans la vie, on est libre de tout et libre de rien, je pense.
C'est pas mal, c'est une belle troisième partie un peu pessimiste.
Ouais.
Mais évidemment, la question, c'est la liberté, est-ce que c'est une conquête? Et la question, c'est qu'évidemment, quand je suis en prison, je suis pas libre, mais est-ce que je suis libre dans ma tête? Donc liberté...
Derrière sa fenêtre. Voilà.
Ah oui, vous citez vraiment les grands philosophes. J'ai envie de demander au professeur Buccella, évidemment, l'autre sujet qui nous reste. Professeur, pouvez-vous me dire, avons-nous besoin d'art?
Bah, je pense qu'on a besoin d'art comme de pain, sincèrement. Oui, c'est en partie ça.
C'est la notion de besoin.
Bah, c'est en partie ça qui fonde notre humanité. C'est l'envie du beau et aussi la quête de connaissance.
Non, l'envie, c'est pas le besoin. Le besoin.
Oui, mais c'est l'envie, c'est
non, non, non,
l'envie.
Non,
d'avoir envie, d'avoir envie de ma vie.
Ça marche à tous les coups.
T'as pas fait besoin de toi, envie de rien.
Je peux le faire aussi.
Qu'est-ce qu'il fait rien envie de toi.
Qu'est-ce qu'il fallait répondre alors,
évidemment.
Donc, en nous citant un ou deux philosophes.
Ah bah, comme Peter et Sloan, par exemple.
Avons-nous avons-nous besoin d'art?
Le plus dur, c'est pas tellement de dire oui, parce que là, on trouve vraiment plein de choses. Le plus dur, c'est de dire non. Non, on n'a pas besoin d'art. On peut dire que l'art est inutile, futile, qui sert à rien. On peut dire que l'art est dangereux. Et vous savez, le philosophe qui dit ça, qu'il faut même exclure les artistes de la cité, c'est Platon. Platon dit, les artistes imitent le réel. En général, par exemple, ils imitent les artisans qui eux-mêmes imitent l'idée de table. Donc les artistes nous éloignent de la réalité, il faut les bannir. Ça c'est Platon, on oublie. Et puis pain, les jeux et l'art. Hein. L'art peut être un spectacle qui nous illusionne et on peut ne pas voir notre propre misère à travers l'art. Donc penser non, on n'a pas besoin d'art, c'était le plus difficile.
Et si Christine référence... Bravo est en train de tomber amoureuse de vous.
Vous m'excitez à mort.
Elle est sapiosexuelle.
Ah oui, vous êtes son style d'homme en plus.
Bah, écoutez,
Tu viens de dire que ton mari était là.
Oui, bah,
il est passé où?
Non, mais c'est platonique. C'est platonique. C'est platonique.
Méfiez-vous,
c'est
parce, platonique. Que... Méfiez-vous parce que autant son mari va pas casser la gueule de Stubby Moxley, autant vous.
Bon, c'est quand même Christine la plus musclée dans le couple.
Non, mais mon mari est bricoleur. Est-ce que vous êtes bricoleur?
Absolument pas.
Alors il me faut les deux.
Ah bah voilà.
Et bah voilà, comme vous voulez. Oui et non. C'est ce qu'il faut répondre en philosophie.
Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL.
Les chèques vacances de la NCV vous offrent ce moment d'évasion en attendant vos congés. Avec plus de 120 000 partenaires, les chèques vacances vont donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur le guide.ancv.com. L'évasion commence ici.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe, quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison?
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Açaïra, 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 chez Citroën, nous on ira. Açaïra, 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 nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon,
canon, canon, canon,
sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Açaïra, 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 des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pensez à covoiturer.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1 euro, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Ouais, alors je comprends. Le problème, c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, non, n'insistez pas. Je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1 euro, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Demain, l'invité de Thomas Soto et d'Amandine Bégaud à 9h40 dans RTL Matin sera Juliette Binoche pour le film The Return, le retour d'Ulysse, qui sortira au cinéma le 18 juin.
RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Yann est le premier auditeur qui a évidemment écouté le retour de Christine Bravo la semaine dernière et qui a déjà noté une erreur de la part de Christine. Bonjour Yann.
Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires, bonjour le public.
Bonjour Yann. Ça ne vous empêche pas d'adorer Christine, hein, vous commencez comme ça, vous dites j'adore Christine Bravo et sa mauvaise foi, j'adore Christine et sa façon de se moquer de tout le monde. Mais vendredi dernier, elle a voulu se moquer d'Adil Rami, parce qu'Adil Rami lui a dit qu'elle avait les lunettes de Sacha Guitry, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu?
Elle lui a répondu non, c'est Marcel Aimé.
Mais ah, c'est Marcel Achard.
C'est Marcel Achard, bravo. Vous corrigez aujourd'hui.
Ah, vous avez raison. À part ça, vous avez que ça à foutre. Hein.
Exactement, un peu comme vous.
Très bien.
Et on peut penser aussi à vos lunettes, elles font penser à Jean-Pierre Coff.
Ah oui. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est vrai. Regrettez.
Je trouve que plus vous vieillissez, plus vous lui ressemblez, et même dans la poêle.
Yann, merci pour votre appel. Ça m'a fait du bien. Maria, maintenant. Bonjour, Maria.
Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires.
Alors,
bonjour
Maria, Maria voudrait s'adresser elle aussi à Christine Bravo.
Ah, mais j'ai une spéciale moi.
Ben, t'es jamais là, donc c'est vrai.
C'est à propos d'Instagram, c'est ça Maria?
Voilà. Donc, le 8 mai, vous avez posté une petite vidéo où vous allez vous faire tatouer avec votre fille.
Ah, j'ai pas montré.
Que vous allez nous montrer. Et vous alliez nous montrer le tatouage le lendemain. Et moi, depuis le 8 mai, j'attends.
Ah, tu t'es fait tatouer quoi?
Alors, je me dis...
Alors, ben, je vais la poster tout à l'heure. Alors, j'ai fait un piment.
Un piment spicy.
Un piment.
Et t'as pas terminé l'intérieur.
Alors, il dit, je l'ai pas terminé, mais...
Et c'est un
alors,
bout de piment.
Figure-toi ouais. que le verre, ça s'est effacé.
Comment il s'est effacé?
Le bout en du moins, piment.
C'est pas un tatouage, ouais. c'est malabar. Vous savez,
c'est une décalcomanie.
Mais et pourquoi tu remplis pas le rouge? On verra mieux si tu remplis.
Décalcomanie, ouais.
Alors, il me demande pourquoi je remplis pas le rouge.
Ouais,
parce que c'est un contour de piment. Parce que mon mari m'a interdit de me faire tatouer.
Un piment entier.
Et alors, j'ai fait rouge et vert, parce que comme il confond un peu les couleurs, et ben il l'a vu quand même. Et donc, si j'avais tout fait rouge...
Là, c'est plus subtil.
Il t'aurait quitté,
c'est plus subtil. Okay,
et c'est le seul truc qui est subtil sur vous.
Est-ce qu'on peut connaître la symbolique du piment dans ta vie?
Pimiento caliente.
Oui, et mais à part le dire en espagnol, sinon...
Et ben, on était en Espagne, on s'est fait un piment.
Elles sont piquantes.
Oh là là.
Ma et fille et moi...
Au Maroc, tu te serais fait un couscous.
Et t'as fait aussi vous avez votre réponse, Maria.
Voilà, ben je vous poste
voilà,
la...
Merci beaucoup.
Merci, Maria.
On vous embrasse, Maria. Antoine. Bonjour, Antoine.
Mais la photo,
bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public.
Bonjour Antoine. Bonjour.
Alors Antoine, ça fait 3 ans qu'il nous suit, mais vous êtes toujours en Australie?
Toujours en Australie.
Oh, c'est pas vrai. En dressant les tables du restaurant pour lequel vous travaillez dans le sud-ouest australien, ah bah il y a le piment d'Espelette australien là-bas peut-être. Vous sifflotez en pensant à nous, mais qu'est-ce que vous sifflotez?
Je sifflotais, mon frère était vétérinaire.
Caroline Diamant. Le tube de Caro.
Le tube de Caroline Diamant.
Ce tube.
C'est quoi ça?
Attendez, j'adore. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en sifflotant ça, vous êtes rendu compte qu'un autre collègue français qui s'appelle Jérémy s'est mis à chanter lui aussi, mon père était vétérinaire, c'est ça?
Oui, au milieu de nos collègues australiens qui comprenaient absolument rien.
Et là, vous vous êtes dit, tiens, il écoute peut-être les grosses têtes lui aussi.
Et c'est le cas. Et du coup, il nous écoute sûrement en ce moment. Et je lui fais une grosse bise et je vous dis que c'est un plaisir de travailler avec lui tous les week-ends.
Ouais.
Attends, c'est quoi cette histoire?
Ah ouais. ils se sont repérés comme auditeurs des grosses têtes
grâce
en Australie.
À vous, Caroline.
Grâce à mon frère et tes vétérinaires.
Bah, t'as créé un couple?
J'ai créé.
Est-ce que vous pouvez pour eux leur refredonner ce grand tube que vous enregistrerez un jour?
Ah oui, bien sûr.
En remix techno.
Mon frère était vétérinaire. Il soufflait dans le trou de cul des chevaux avec un petit tube en verre. Pour les rendre plus forts, plus beaux. Mais un jour, ce fut le contraire. Le cheval souffla le premier. Ce qui fit éclater mon frère. Et sur sa tombe, on a marqué mon frère.
Était vétérinaire. Et juste pour savoir, Antoine, cette chanson vous a donné des idées avec votre collègue?
C'est uniquement professionnel.
Bon, très bien. Ah, bon. On vous remercie pour votre appel, c'était très sympa. Kevin, maintenant, bonjour Kevin.
Bonjour à tous, bonjour l'équipe.
Alors Kevin a une blague à nous raconter qu'il a inventée, c'est bien ça?
Ah, oh la vache.
C'est ça, oui.
Alors on vous écoute,
tout
Kevin.
Sans abri.
Alors c'est une dame qui est aveugle et elle va voir son voisin. Bonjour monsieur, excuse-moi, je suis aveugle. Ah oui, bah, j'ai combien de doigts du coup? Bah, vous pouvez les retirer de là s'il vous plaît?
C'est
fini, ouais. C'est un peu imagé, hein.
On vous remercie, Kevin, pour cette blague.
Merci à vous.
Je pense que vous n'allez pas faire un carton avec.
Vous écoutez les grosses têtes tous les jours?
Non, non.
Alors, je peux pas les écouter tous les jours parce que je travaille en restauration, mais du coup, je les écoute en replay.
En podcast et en replay.
En podcast, ouais.
Bah, merci, Kevin. Restez fidèles. Je voudrais signaler aussi. On a des camarades québécois dans la salle aujourd'hui, normalement. C'est Benjamin qui a écrit.
Oh, je suis tellement content.
Je serai...
Bonjour, Benjamin.
Je sais pas où ils sont.
Il est là, premier rang. Ben voilà. Premier rang. Vive le Québec libre.
Ah, voilà. Benjamin, il a tatoué une poule sur son bras.
Et une poule qui mange du piment.
On salue en tout cas nos auditeurs québécois qui, effectivement, sont nombreux à nous écouter depuis Montréal. Et vous êtes venus le bonjour parce que tout à l'heure, en fin d'émission, on recevra Diane Dufresne, grande star québécoise. Yeah.